J'aimerais commencer par lire les deux textes sur lesquels nous allons nous pencher ce matin. Si la technique peut bien projeter ces textes. Ok, premier texte que nous allons lire ensemble. 1 Jean, chapitre 1, versets 4 à 7. Si nous vous écrivons ces choses, c'est pour que notre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Et 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 11. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser, par son sacrifice, pour nos péchés, sa colère contre nous. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Alors, vous connaissez le site Facebook, qui est un moyen donc de communiquer, de publier des informations sur sa vie personnelle ou sa vie en groupe. Facebook a mené une expérience en 2012 pour comprendre comment fonctionnaient les émotions des utilisateurs de Facebook. En clair, l'expérience était la suivante. Les chercheurs ont publié sur des profils de personnes réelles des messages exprimant soit une bonne nouvelle, soit une mauvaise nouvelle, soit une bonne humeur ou une mauvaise humeur. Et l'idée a été de vérifier s'il y avait un effet viral, à savoir quelqu'un qui publiait un message de bonne nouvelle, est-ce qu'il influençait l'humeur des personnes avec qui il était connecté et qui lisait ce message. Et cette expérience a mené à deux conclusions. Une première qui paraît assez évidente, c'est que la bonne humeur est communicative. À l'inverse, la mauvaise humeur est communicative. Autrement dit, on peut recevoir une mauvaise nouvelle et ça peut influencer notre état d'esprit du moment. Mais la deuxième conclusion, qui est un peu moins évidente et intéressante à noter, c'est que cette expérience a démontré que le groupe est plus important que l'individu. Et cette conclusion vient à l'encontre de tout ce que les créateurs de publicité pensent, à savoir que la publicité vise en premier lieu l'individu et le bien-être de l'individu. Et cette étude montre à quel point un groupe, cibler un groupe, peut être encore plus pertinent et va davantage influencer l'individu que simplement de s'intéresser à l'individu en premier lieu. Alors pourquoi est-ce que je vous cite cet exemple de cette expérience menée par Facebook? Tout simplement parce qu'en fait, lorsqu'on lit l'épître de Jean, on réalise que Jean est au courant de ces deux conclusions. Déjà, il y a déjà 2000 ans, Jean savait qu'une bonne nouvelle était communicative et il savait que le groupe pouvait avoir une influence sur les individus. Alors pourquoi? Pourquoi je vous dis que Jean était convaincu qu'une bonne nouvelle est communicative? Regardez le verset 4 du premier chapitre. Nous vous écrivons ces choses, c'est pour que notre joie soit complète. Jean a un objectif dans son épître, c'est de nous transmettre de la joie. Et c'est que notre joie soit complète. Et il peut le faire parce que lui-même, sa joie est complète. Donc ça, c'est le but de Jean, de communiquer une bonne nouvelle qui apporte la joie. Et puis, la deuxième chose, c'est que Jean, en fait, insiste particulièrement sur la personne de Dieu. Dans les deux passages que nous avons lus, il y a deux fois le verbe « être ». pour dire Dieu est lumière et Dieu est amour. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Jean ne reste pas dans les nuages, il n'est pas simplement en train de nous dire là-haut il y a un Dieu qui est lumière, qui est amour. Il va montrer à quel point cette réalité va influencer ma vie comme individu et va influencer le groupe de personnes que je côtoie. Et c'est particulièrement vrai lorsqu'on voit le dernier verset ici. Puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Si Dieu est amour, il y a donc des conséquences pratiques dans mes relations avec les autres personnes autour de moi. Alors, j'ai choisi de vous parler d'un Jean ce matin, en fait, en raison d'un défi lancé au week-end d'église par Daniel Mattioli. Alors, si vous écoutez le message enregistré sur le site, vous verrez le contexte dans lequel il a dit ça. Mais il nous a lancé un défi de lire l'épître de Jean une fois par jour pendant un mois. Autrement dit, en réfléchissant à ce que j'allais proposer ce matin, et ayant déjà lu une dizaine de fois du coup l'épître de Jean, ça me paraissait évident qu'il fallait que j'avais envie de partager des choses que j'ai découvertes dans cette épître. Par contre, ce que Daniel ne m'avait pas dit, c'est que j'avais découvert tellement de choses qu'il n'y aurait pas moyen de tout dire ce matin, et puis qu'il nous a présenté ce défi en nous disant « Lisez l'évangile de Jean, l'épître de 1 Jean une fois par jour, parce que vous allez voir que vous allez découvrir qui est Dieu. » Et donc ce matin, je me suis dit, je vais vous parler de Dieu qui est lumière, de Dieu qui est amour, et je vais vous parler de Dieu qui est dès le commencement, autre expression proposée ici. Mais ce que je n'avais pas prévu, et ça il ne nous l'avait pas dit, c'est qu'en réalité, dans l'épître de 1 Jean, Jean parle beaucoup plus de nous que de Dieu. Et finalement, quand on réfléchit à qui est Dieu, ça nous oblige à réfléchir à qui nous sommes et à ce que nous faisons. Et en fait, ce que Jean fait dans cet épître est complètement prémédité. Il fait face à une fausse idée qui se répand parmi les chrétiens qu'il côtoie, une idée que ce qui compte pour vivre une vie spirituelle épanouie, c'est la connaissance. C'est d'avoir une bonne conception de qui est Dieu, d'avoir une bonne théologie de ce qui se passe dans le ciel. Et puis finalement, selon cette philosophie, le matériel, la manière de vivre, ce que nous faisons avec notre corps n'est finalement pas vraiment important. Et Paul et Jean ici va donc s'employer à démontrer que le spirituel et la vie pratique quotidienne ne sont pas deux choses séparées, mais sont complètement associées. Et ce qui est fou, c'est que finalement cette fausse idée qui était celle qui se répandait au premier siècle, eh bien en fait elle existe toujours. Certainement qu'aujourd'hui dans notre société, on prouve par A plus B que ce qui compte c'est de s'épanouir, c'est le plaisir, c'est d'être heureux, et que ce n'est pas la peine de se mettre des limites dans notre vie sexuelle, dans les plaisirs qu'on s'offre, dans ce qu'on mange, etc. Alors Jean aurait pu très bien arriver avec son bazooka et puis tirer sur cette doctrine en disant voilà ce qu'il pense c'est faux, voilà ce qu'il pense c'est faux, voilà ce qu'il pense c'est faux. Mais Jean est convaincu d'une chose, c'est qu'une bonne nouvelle est communicative. Donc plutôt que de tirer à boulet rouge sur cette doctrine et de nous la présenter et de nous montrer clairement en quoi elle est fausse, il n'en parle même pas dans son épître. C'est uniquement visible entre les lignes. Il s'emploie à montrer et à rappeler qu'est-ce que cela signifie de croire que Dieu est amour, que Dieu est lumière. Et en faisant cela, il nous encourage et il nous protège de cette fausse idée qui emmène les gens loin de Dieu. Dieu est lumière, Dieu est amour, Dieu est commencement. On va commencer par le commencement, Dieu est lumière. Avec ces trois versets que je veux lire, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Dieu est lumière. C'est une affirmation qui paraît très simple, sauf lorsqu'on réalise que la lumière a un double pouvoir. La lumière a le pouvoir d'éclairer, mais la lumière aussi a le pouvoir d'éblouir, et donc de cacher. Et c'est un peu paradoxal, mais c'est une réalité. Si on prend l'exemple de l'astronomie, chaque planète d'une galaxie a la particularité de ne pas émettre de lumière en elle-même, mais elle ne fait que refléter la lumière d'une étoile autour d'elle. C'est le cas pour la Terre, c'est le cas pour la Lune. Ce sont deux planètes qui reflètent la lumière du Soleil. Et lorsque la Terre tourne, eh bien, il y a une face de la Terre qui ne voit plus le Soleil, et c'est la face sur laquelle il fait nuit, tout simplement. En fait, cet exemple, il illustre le fait que la lumière peut éclairer. Mais ce qui intéresse les astronomes aujourd'hui, c'est justement de découvrir ce que la lumière peut cacher. Alors, au Chili, se trouve cet observatoire qui appartient, c'est l'observatoire européen austral, qui s'appelle le Très Grand Télescope. C'est à 2600 mètres d'altitude, au milieu d'un désert. L'absence de lumière alentour permet d'observer les étoiles de manière très efficace. Et ce qui est assez extraordinaire concernant cet observatoire, c'est qu'en fait, il va permettre, grâce à ces quatre télescopes réunis, une observation particulièrement fine de l'espace. Il y a plus de 1700 planètes qui ont été découvertes en dehors du système solaire grâce à ce télescope. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, pour aller plus loin, les scientifiques ont besoin d'un télescope qui serait capable de voir une bougie éclairée à Marseille depuis Paris. Le problème, c'est que la lumière émise par la ville de Marseille est tellement importante que lorsqu'on cherche la bougie dans cette ville de Marseille, on ne peut pas la trouver, elle est écrasée par la lumière émise par la ville de Marseille. Et bien, c'est la même chose qui se passe dans l'espace. Aujourd'hui, les astronomes ne peuvent pas découvrir de nouvelles planètes, même s'ils présument leur existence, parce que la lueur de l'étoile qui éclaire ces planètes masque la vue de ces planètes. Et c'est pour ça que, tout récemment, un télescope d'un nouveau genre a été fabriqué, en grande partie à Lyon d'ailleurs, et a vient d'être mis en place dans ce télescope au Chili. Et grâce à ce nouveau télescope qui s'appelle Sphère, les scientifiques, depuis dimanche dernier, sont capables de donner de nouvelles images du ciel et sont capables, justement, de voir depuis Paris une bougie allumée au plein cœur de la ville de Marseille. Autrement dit, ce nouveau télescope va permettre de découvrir de nouvelles planètes qui étaient jusqu'alors invisibles parce qu'elles étaient cachées par la lumière de leur étoile. La lumière peut donc faire deux choses, elle peut éclairer, mais elle peut aussi cacher, elle peut aussi éblouir, elle peut masquer. Alors, Dieu est lumière, en quoi Dieu peut-il éclairer? En fait, Dieu peut éclairer ma vie de la même manière qu'une étoile et faire les planètes qui l'entourent. La seule condition, c'est que cette étoile reste en rotation autour de... Il faut que la planète reste en rotation autour de l'étoile. Autrement dit, si je crois que Dieu est lumière, ça implique que ma vie, mes pensées, mes actes soient orientés en direction de Dieu. Mais le défi que Jean nous laisse là, c'est de nous montrer que l'être et le faire sont complètement indissociables. Regardez ce qu'il dit là dans les versets qui sont ici, qu'on a lu tout à l'heure. Il dit bien, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, autrement dit, si nous disons que nous croyons que Dieu est lumière, super, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Pareil, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. On ne peut pas dire qu'on croit que Dieu est notre étoile et que nous sommes une planète qui gravite autour de lui si en fait, en réalité, on part complètement à l'opposé et qu'on essaie de suivre notre propre trajectoire. C'est pas possible. Il dit bien que croire que Dieu est lumière implique d'être et implique de faire, implique de croire qu'il est lumière et implique de marcher dans la lumière. Cette lumière peut aussi masquer ce que nous sommes. Comme une planète peut être masquée aux yeux des astronomes en raison de la lumière de l'étoile qui est lui à côté d'elle, nous pouvons avoir tendance à croire que simplement le fait de dire que Dieu est lumière peut nous permettre de vivre une vie à peu près correcte et d'avoir quelques écarts. De toute façon, je crois que Dieu est lumière, je dis aux autres que je crois que Dieu est lumière, donc je peux me permettre d'avoir une vie à peu près correcte, mais tant pis pour quelques écarts. Or, ici, Jean dit quoi ? Jean dit, Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. Ce qu'il nous dit clairement, c'est que c'est qu'il n'y a pas de zone grise, il n'y a pas de nuance. C'est un contraste qui est total. Dieu n'est pas lumière avec un peu de ténèbres, Dieu n'est pas lumière avec un peu d'ombre, c'est une lumière totale dans laquelle il n'y a pas d'ombre. Autrement dit, il n'y a pas de zone grise. Pour les géographes, une zone grise, c'est un espace où il y a des dangers particulièrement importants. C'est un espace où de non-droit. Et les espaces maritimes en particulier sont concernés par cela. La voie navigable la plus dangereuse au monde se trouve au sud de Singapour, dans le détroit de Malacca. Dans ce passage maritime, il y a plus de 50 000 navires qui passent chaque année. 4 minutes d'intervalle entre chaque navire. Des porte-conteneurs gigantesques, des pétroliers, etc. Et en clair, cette voie est extrêmement dangereuse parce qu'il y a des pirates qui circulent, notamment depuis l'Indonésie, qui est un pays pauvre, pour rançonner les bateaux qui passent par là. La seule solution qui a été mise en place, qui a été trouvée pour réduire la piraterie, c'est à la fois de forcer la collaboration entre Singapour, l'Indonésie, les pays qui sont là autour, et c'est également de mettre en place des patrouilles qui surveillent cet espace et qui attrapent les pirates ou qui, en tout cas, protègent les navires qui passent. Comment est-ce que dans ma vie, je peux détecter une zone grise ? Une zone dans laquelle la lumière de Dieu n'a pas lieu d'être, où je ne laisse pas la lumière de Dieu m'éclairer. Je pense que la première solution, c'est d'être conscient qu'il y a danger. Si je permets des zones grises dans ma vie, il y a danger, parce que ça veut dire que je ne marche pas dans la lumière, et donc je dis clairement à Dieu que sa lumière ne peut pas m'atteindre. Détecter une zone grise nécessite aussi tout simplement de comprendre qui est Dieu, en quelle est sa lumière et qui il est. C'est donc passer du temps avec lui. C'est donc lire l'épître de Jean une fois par jour pendant un mois. C'est apprendre à le connaître personnellement. Mais comment éliminer concrètement une zone grise ? La seule solution, c'est de mettre en place des patrouilles qui circulent dans la zone. C'est de mettre en place des outils de collaboration entre les pays qui sont en place dans ma vie. C'est quoi ces pays ? C'est quoi ces patrouilles que je peux mettre en place ? Mais je crois que lorsqu'on détecte une zone grise dans sa vie, c'est hyper important de choisir le travail de groupe et de se soutenir les uns les autres et d'en parler les uns avec les autres, avec des personnes de confiance qui peuvent nous aider à sortir et à être protégés de ces zones grises dont on n'arrive peut-être pas à se débarrasser dans notre vie. Et enfin, Jean nous dit quelque chose d'assez clair au verset 9. Il dit, bien tout simplement, si nous reconnaissons nos péchés, si nous reconnaissons qu'il y a des zones grises dans notre vie, où la lumière de Dieu n'a pas lieu d'être, il est fidèle et juste. Par conséquent, il nous pardonnera nos péchés, nous purifiera tout le mal que nous avons commis. Donc comment éliminer une zone grise ? C'est reconnaître, dire à Dieu, reconnaître que cette zone grise existe. Dire à Dieu que cette zone grise existe. Dieu est lumière, Dieu peut donc éclairer notre vie, mais on ne doit pas se servir de Dieu pour masquer ce que nous sommes, parce que si nous le faisons, eh bien, Dieu lui-même va peut-être arrêter de nous éclairer et nous serons masqués à sa vue. Dieu est amour. Au chapitre 7, verset 8, « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, celui qui aime est né de Dieu, et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Dieu est amour. Cette phrase est extraordinaire et elle joue un rôle très important dans ma vie. Je vais vous dire pourquoi dans un instant. Mais avant ça, j'ai une question pour vous. L'amour sincère existe-t-il? Je suis allé voir un film cette semaine qui s'appelle Maléfique, qui est en fait une histoire qui tourne autour de la Belle au bois dormant et qui revisite l'histoire en expliquant qu'en fait la Belle au bois dormant est tombée dans un sommeil profond parce qu'elle a reçu un sort qui fait qu'elle ne peut en être, elle va tomber dans le sommeil à l'âge de 16 ans et qu'elle ne peut être délivrée de ce sort qu'à condition de recevoir un baiser d'un amour sincère. Évidemment, toute l'histoire tourne autour de la question de savoir si le prince charmant va avoir ce baiser d'amour sincère. Je ne vais pas vous raconter ce qui se passe, parce que sinon, je vais vous spoiler l'histoire. Mais, en fait, tout le film tourne autour des moments avant ce baiser et du doute énorme qu'il y a sur l'existence de l'amour sincère. Et en effet, est-ce que le prince charmant est intéressé juste par la beauté de cette femme, ou est-ce que vraiment il l'aime alors qu'il l'a juste vue endormie, etc. Et lorsqu'on dit que Dieu est amour, on parle d'un amour sincère, et de l'amour sincère suprême. Jean nous dit que l'amour sincère existe. Mais en même temps, je pense que Jean nous met face à un défi très clair. Est-ce que tu crois que l'amour sincère existe? Est-ce que tu es prêt à croire que l'amour sincère existe? Quand je vis dans ma vie des situations où des personnes que j'aime me trahissent, ça remet en question ma foi dans l'existence d'un amour sincère, d'une amitié sincère. Et lorsque je suis passé dans une période dans ma vie, il y a 15 ans, où j'avais l'impression d'avoir été oublié par Dieu et de ne plus savoir qui j'étais, où j'allais, ce que je faisais sur cette terre, je suis tombé sur ce verset dans 1 Jean, « Dieu est amour ». Lorsque je l'ai lu, ce qui est apparu à mes yeux, c'était pas « Dieu est amour », c'était « Est-ce que tu crois que Dieu est amour ?» Et j'ai eu l'impression que cette question m'a trotté en tête jusqu'au moment où j'ai dû m'arrêter et me placer devant Dieu et capituler, lui dire « Oui, je crois que tu es amour et que ton amour est sincère et qu'il va durer toujours. » Et aujourd'hui, cette conscience me porte, et lorsque je viens vers Dieu, tel que je suis, avec tout ce que je suis, je sais indubitablement que Dieu est amour, et que je peux venir vers lui sans aucun doute et sans aucune crainte. Ça, c'est dans ma relation avec Dieu. Mais, vous l'avez bien compris, ici, c'est bien de comprendre que Dieu est amour. Mais ça a des conséquences. L'amour vient de Dieu, celui qui aime est né de Dieu, il connaît Dieu. Mais au départ, c'est « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres ». Autrement dit, l'amour sincère que Dieu a pour nous, c'est aussi l'amour sincère que Dieu désire que nous ayons pour les autres. Et là, on arrive à des choses un petit peu concrètes et pratiques. Le fait de croire que Dieu est lumière implique de marcher dans la lumière. Le fait de croire que Dieu est amour implique de marcher dans l'amour. Là aussi, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de zone grise. C'est pas, aime ton prochain, mais voilà, sois sympa avec lui, quoi. Non, c'est, tu dois l'aimer. Et si tu ne l'aimes pas, c'est que tu le détestes. Il y a plein de fois où dans cet évangile, dans cet épître, Jean insiste là-dessus. À 6 reprises, Jean dénonce le fait d'haïr son frère. À 10 reprises, il insiste sur le fait de s'aimer les uns les autres. Donc vous voyez la nuance, Jean dit une seule fois que Dieu est amour, mais il dit 10 fois que nous devons nous aimer les uns les autres. Et cet amour que Dieu exige de nous pour notre prochain, c'est un amour sincère, inconditionnel, qui procède de la simple volonté de vouloir le bien du prochain et non pas en fonction des raisons pour lesquelles il mérite d'être aimé. Vous voyez comment Jean montre à quel point vie spirituelle et vie matérielle, vie quotidienne sont liées. Il n'y a pas de hiatus, il n'y a pas de séparation entre ces deux réalités. Mais si je m'arrête là, je vous aurais dit qu'il faut que vous marchiez dans la lumière, je vous aurais dit qu'il faut marcher dans l'amour, et puis on ne dépasse pas n'importe quelle autre philosophie ou religion qui toutes nous disent qu'il faut aimer notre prochain, qui toutes nous disent qu'il faut marcher, qu'il faut pratiquer une vie droite et respecter des règles. Et c'est là où Jean va beaucoup plus loin. Jean va plus loin parce qu'il nous explique que Dieu est dès le commencement. Regardez ce qu'il dit ici dans au chapitre 2, versets 13 et 14. Je vous écris ceci, Père, vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous le confirme, Père, vous connaissez celui qui est dès le commencement. Alors, il y a beaucoup de manières de lire cette phrase, et il faudra la replacer dans son contexte, mais je vous propose juste une interprétation. Lorsque j'ai, l'été dernier, au mois d'août, j'ai eu Jean-Lionel au téléphone, peu après la naissance d'Eliott, et il m'a décrit d'une manière hyper précise chaque instant de la naissance d'Eliott. Et je peux vous préciser que là, je savais que j'avais affaire à un expert, un père expert, qui était présent dès le commencement de la vie d'Eliott. Et finalement, c'est peut-être un peu cela que Jean nous dit ici. Un père, il connaît son enfant dès le commencement. Un père, dès la naissance de l'enfant, accompagne cet enfant jusqu'à l'âge adulte et peut lui rappeler, au cours de sa croissance, qu'il était là avec lui dès le commencement. Connaître Dieu, c'est connaître le Père qui existe dès le commencement. Alors certes, le commencement du monde, certes, le commencement du monde actuel, mais aussi le commencement de ma vie, le commencement de mes problèmes, le commencement de mes joies, c'est ce Père-là que nous côtoyons. Croire que Dieu est lumière, croire que Dieu est amour, c'est côtoyer celui qui nous connaît, qui te connaît dès le commencement. Et ce qui est encore extraordinaire, c'est que Dieu nous connaît dès le commencement, comme un père peut apprécier le fils qu'il connaît dès le commencement, mais que Dieu a été beaucoup plus loin que ça. Dieu lui-même s'est placé en père en envoyant Jésus-Christ pour que nous prouver à quel point il nous aime. Et Jésus-Christ, dans l'épître de Jean, on apprend trois choses principales sur lui. La première, c'est que Jésus-Christ a vécu dans la lumière. Regardez ce que Jean nous dit ici. C'est la suivante. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. Jean affirme que Christ a vécu sur la terre. Et Jean affirme, au début de son évangile, de l'évangile, que Jésus-Christ est aussi la lumière. Il dit au chapitre 8, verset 12, Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Autrement dit, lorsque Dieu nous demande de marcher dans la lumière, il ne nous laisse pas seuls en disant, « Vas-y, ça va bien se passer. » Non, il nous dit, « Jésus-Christ a marché dans la lumière avant toi. » Christ a vécu aussi dans l'amour. Au chapitre 3, verset 16, « Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » C'est extraordinaire. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Et comment est-ce qu'il a prouvé son amour? C'est en donnant sa vie, mais aussi en se mettant à genoux devant les disciples, en leur lavant les pieds, en étant agréable, en prenant soin des lépreux, des prostituées, des collecteurs d'impôts, des pauvres, et même des bourreaux, et de ceux qui se moquaient de lui à la croix. Christ est celui qui, par son amour, par le fait qu'il est la lumière, nous a ouvert le chemin vers Dieu. Et clairement, ici, on voit que, et c'est la conclusion de l'épître de Jean, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Grâce à Jésus-Christ, nous pouvons connaître, au sens réel du terme, ce que signifie que Dieu est amour, ce que signifie que Dieu est lumière, ce que signifie que Dieu est dès le commencement. L'étude sociologique de Facebook a montré deux choses. C'est qu'une bonne nouvelle est communicative. C'est que l'influence d'un groupe peut être plus importante que celle d'un individu. Et je crois que Jean ici nous livre le même secret. Le secret pour trouver la force de marcher dans la lumière, de marcher dans l'amour, réside dans notre foi, dans la bonne nouvelle de ce que Christ a fait, mais aussi dans les relations que nous entretenons les uns avec les autres. Côtoyer des personnes qui partagent cet amour, qui connaissent, qui savent que Dieu est lumière, que Dieu est amour, est un encouragement qui nous permet d'avancer, de marcher dans la lumière, de marcher dans l'amour. Alors, Daniel Mathioli, au week-end d'église, a lancé ce défi de lire un Jean une fois par jour pendant un mois. Je pense que c'est un défi qu'il a apporté tout le monde. Mais juste pour conclure, j'aimerais vous proposer une petite surprise. Pendant l'été, certains d'entre vous vont avoir des vacances. Et c'est toujours l'occasion de s'arrêter, de prendre un petit moment pour lire un bon livre. Et je pense que c'est aussi une occasion pour apprendre à mieux connaître Dieu. Donc j'aimerais laisser la place à Meryl et Brigitte pour qu'elles nous proposent quelques lectures de plage pour cet été.
Bonjour. Moi, personnellement, pendant les vacances, j'aime bien genre reposer mon cerveau. Et donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup lire des biographies, parce que ça, j'admire beaucoup les missionnaires ou des gens comme ça qui ont fait des grandes choses pour Dieu. Et j'essaie toujours d'apprendre quelque chose, de retirer une leçon ou d'essayer de travailler un aspect de mon caractère par rapport à ce que j'ai lu. Et récemment, là, même cette semaine en fait, à la maison, je suis passée devant une étagère et j'ai retrouvé un petit livre que papa nous lisait avant de nous coucher le soir quand on était petite. Donc en français, je crois que c'est « Elles ont changé le monde ». Et donc, il y a « Elles ont changé le monde »,« Ils ont changé le monde », et il y a toute une série comme ça. Et c'est des petites histoires, des petites biographies adaptées pour les enfants. Donc, pour les parents, j'ai un très bon souvenir de ça. Et il y a plein de petites histoires de ceux qui ont vraiment été pionniers dans certains pays ou qui ont inventé qui ont créé des missions ou des organismes. Et je l'ai relu là récemment et j'ai vraiment trouvé que c'était vachement bien fait. Et à la fin, il y a une petite prière adaptée pour les enfants. Bon, ça, c'est vraiment pour les parents, pour les enfants, parce que voilà, c'est très simple comme vocabulaire. Et puis il y a des petites aides, des petites notes par rapport aux faits historiques qui sont évoqués, par rapport à certaines guerres pendant lesquelles les personnes ont vécu. Elles ont changé ou ils ont changé le monde. Et je le conseille vraiment pour les parents, si jamais à un moment, pendant la plage ou quoi, pendant le goûter, vous voulez faire un truc plus calme pour vos enfants qui font que de courir partout, vous pouvez leur commencer une histoire et arrêter là en plein milieu, parce que ça marche très bien. Pour ça, il fait service, ça marchait très bien.
Alors moi, je ne savais pas sur quoi tu allais prêcher, et j'avais choisi ce commentaire de William Wesley, « Soyez authentique », et c'est sur un Jean. Donc, voilà. Donc, William Wesley fait... Pardon ? Voilà. Fait plein de commentaires comme ceci. Ça s'appelle toujours « Soyez quelque chose »,« Soyez joyeux »,« Soyez authentique »,« Soyez ». Ah, c'est des commentaires pas très compliqués qu'on peut lire sur la plage. Des premiers commentaires, je dirais, sur le texte biblique. Donc, je vous recommande ça. Ça s'appelle « Soyez ». Vous pouvez les trouver facilement. Je ne sais pas trop ce que vous aimez lire. Sinon, il y a aussi un petit peu sous forme de commentaire, mais peut-être encore plus facile pour les vacances. Swindoll, l'histoire fascinante de ces personnages méconnus. Donc là, vous pouvez vraiment, c'est sur des personnages bibliques et c'est très très intéressant aussi. Ensuite, si vous voulez prendre un petit peu des arguments pour défendre votre foi, il y a donc Gilles Georgel qui travaille à Saint-Quentin, qui a vraiment à cœur l'apologétique, la défense de la foi. Et il a écrit notamment Le Grand Visiteur, un homme nommé Jésus. Donc on dit plein de choses sur Jésus, mais qui est-il vraiment? Donc si vous voulez recharger les batteries pour témoigner à la rentrée, au travail ou à d'autres occasions, c'est très très bien fait ce livre-là. Et puis les incontournables histoires missionnaires, bon, j'en ai pris une, Le Pays que j'ai aimé, Moira Alexander qui a travaillé au Bénin. Donc là, il y a plein d'histoires missionnaires qui sont passionnantes. Donc je pense que Denise pourrait vous aider aussi pour tout ça. Voilà, c'est que vous.
Bien, merci. Terminons par la prière. Prions. Nous te remercions, Seigneur, car ta lumière a brillé sur nous lorsque nous étions au fond des ténèbres. Et nous te prions de nous aider à marcher dans la lumière, à aimer la lumière, et que notre lumière brille devant les hommes. Au nom de Jésus. Amen.